Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec Mohamed, Pierre, Patrick, un ancien président de la République qui veut rendre grâce dans un livre aux artistes, ses élus au cœur de l'humanité, et un homme qui signe ses SMS par un ex-lénul, comique de la fin du XXe siècle, mais qui n'aime pas qu'on le définisse comme artiste. Bonsoir, cher Dominique Farrugia.
Bonsoir, merci. Non, salut, je veux bien qu'on me définisse comme artiste, mais je le suis moins. Non, en étant producteur, on a plus les mains dans le cambouis.
Mais vous l'avez été, cher Dominique.
J'ai été.
C'est à ce titre que vous avez été décoré, fait chevalier de la Légion d'honneur. C'était en 2009. Et qui vous remettait cette décoration? Nicolas Sarkozy, ici présent, qui n'était pas le dernier en blague, si je peux le dire, comme ça.
Dominique Farrugia, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Étaient présents Gérard Jugnot, Manu Payette, Alain Felou ou encore Alain Chabat qui a filmé comme à une communion.
J'ai découvert que Dominique était premier prix de conservatoire en flûte traversière. Franchement, c'était pas le physique pour ça, mais enfin bon.
Dominique Farrugia a fait un petit discours.
J'ai rien préparé, donc j'ai rien de drôle. Alain Chabat, tu sais ce que c'est?
Et enfin, réaction de Dominique Farrugia.
J'étais fier, ému, et puis Napoléon III l'a donné à l'inventeur de la margarine, donc pourquoi pas le donner à l'inventeur de la mouche qui pète.
Ça méritait bien la Légion d'honneur, cette mouche qui pète, Dominique Farrugia.
C'est un moment extrêmement émouvant pour moi. J'ai une photo de Nicolas et de mon papa dans mon bureau qui ne me suit pas. Et je pense que c'est le moment le plus intense de ma carrière vu par mon père. Et ben ça, on pourra jamais me l'enlever. C'est voilà, cette photo est là et elle restera là. Il y a ta fille derrière. Et voilà, c'est Nicolas m'a fait un grand cadeau en me la remettant personnellement. Et ma famille était là. Il faut savoir que mon grand-père ne parlait pas français, parlait le maltais. Je viens d'une famille d'extraction extrêmement modeste et voilà. Et en plus, me voir aujourd'hui comme je suis content. J'ai moins 47 kilos que là, donc c'est tout gagnant.
Vous vous souvenez de ce moment-là, Nicolas Sarkozy?
Bon, écoutez, j'aime Dominique Farrugia depuis très longtemps.
Vous aimiez son humour?
Non, mais j'aime son talent, mais ça, c'est très facile. Je l'aime parce que je le connais. Moi, j'aime les gens courageux. Et Dominique, c'est la définition de courage. J'aime les gens gentils. Et Dominique, c'est la définition de la gentillesse. J'aime les gens positifs. Et Dominique, c'est la définition du positif. Je l'admire. Je l'admire pas d'hier. Je le dis exactement. Je, rien à demander. Je l'admire. On s'est rencontrés, on peut dire, c'est une forme de coup de foudre.
Ouais.
J'aime ce type. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'aurais aimé, à l'école, être son copain. J'aime être son ami. Mais je ne suis pas simplement quelqu'un qu'il aime, je suis quelqu'un qu'il admire. Voilà. C'est une leçon. Et vous savez, on parlait de nos problèmes. Comment il se tient debout? Parce qu'il est assis, c'est un homme debout. C'est le seul type que je connaisse qui est debout alors qu'il est assis. C'est un homme debout, avec une dignité.
Et...
Bon, enfin, voilà.
Et là, vous venez de lui offrir un deuxième discours de remise de décoration.
Arrêtez. Non, j'aurais pas dit.
Sans évoquer la fuite traversière.
Je vous dis simplement, parce que comme je suis tellement ému quand je le vois, et comme c'est des sentiments vrais, j'espère que chacun le sent, on blague, parce que c'est une façon, la blague, c'est une façon d'être pudique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est un type, il vient me voir, je lui dis ça va, et il passe tout de suite à autre chose. C'est extraordinaire, c'est une leçon de vie. Vraiment, ça nous fait du bien à tous.
Merci.
Et c'est ce que, dans ce livre-là, vous parlez de la maladie, celle qui ne vous a jamais quitté depuis une trentaine d'années, mais vous en parlez aussi parce que vous en faites un combat. Rendre visible, ce qui est souvent, trop souvent, invisible en France, notamment le handicap et le quotidien des 12 millions d'handicapés en France. Et c'est aussi pour eux que vous parlez de cette maladie avec laquelle vous vivez depuis 30 ans. On va y revenir longuement. Mais d'abord, c'est la story média de Mohamed Bouassi sur un sujet qui vous intéresse tous les deux. Vous nous parler du Bureau des légendes, cher Mohamed.
Qui va réunir nos deux invités. La série d'espionnage la plus intelligente et la plus crédible du monde. La troisième meilleure série des années 2010, selon le célèbre New York Times, est française. Le Bureau des légendes, c'est un succès mondial diffusé dans 100 pays.
C'est dangereux.
Délicat.
Cette nouvelle peut déstabiliser tous les agents sur le terrain. Quand on apprend l'existence d'une taupe, on a peur d'avoir été balancé.
Pour la première fois, le créateur de la série, Éric Rochant, a rencontré pour C'est à vous le coordinateur national du renseignement et de la lutte antiterrorisme, Laurent Nunez. Avec Audrey Payas, nous leur avons demandé d'expliquer les raisons du succès de la série.
Ce qui s'est passé, c'est que les attentats, je crois, ont éveillé les consciences. Et on a tous, moi je l'ai ressenti aussi, on a tous eu besoin de savoir que nos services de renseignement étaient d'attaque.
Grâce à la série, pour le côté un peu ludique, hein, une fiction, et puis pour le côté plus dramatique, il y a eu malheureusement les attentats, on a eu une visibilité accrue, un coup de projecteur accru donné sur les services de renseignement. Donc on a eu des profils, des talents nouveaux, des analystes, des techniciens, hein, notamment des jeunes geeks, hein, qui sont arrivés dans le monde du renseignement.
Diffusé sur Canal+ pendant 5 saisons, le Bureau des légendes montre pour la première fois de manière aussi cohérente et documentée le monde des espions, éloigné des clichés de James Bond. Éric Rochant, le réalisateur de la série, a pu rencontrer les espions français, ceux qu'on appelle les clandestins.
Le premier jour où j'ai traversé la cour de la DGSA, ce qui m'a frappé, c'est de croiser des gens qui faisaient du jogging, des gens en jean. Je vois des gens très détendus. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est l'excellence. Pour que les services de renseignement fonctionnent, il faut juste les meilleurs dans tous les domaines. En intelligence artificielle, les mathématiciens, les statisticiens. Et quand on sait ça, on se sent un tout petit peu plus en sécurité.
Ce qui fait la performance d'un service comme la DGSE, c'est ce continuum dans la chaîne professionnelle. La série montre bien que dans le renseignement, dans l'action des services de renseignement, chacun joue un rôle fondamental.
Mais le carton de la série a eu une autre conséquence positive. Depuis la diffusion du Bureau des légendes, les candidatures à la DGSE, les services secrets français, ont été multipliées par 10. Des aspirations qui s'expliquent aussi par l'envie d'aider son pays après la vague d'attentats qui a touché le sol français depuis 2015. Un combat qui n'a jamais cessé depuis.
36 attentats ont été déjoués, hein, ce qui est quand même assez important, c'est un chiffre significatif. Un attentat déjoué, c'est forcément une ou plusieurs personnes qui se sont armées ou qui ont l'intention de le faire de manière certaine et qui ont déjà procédé à des repérages. Il y a une phase en amont de l'attentat déjoué qui est d'empêcher de nuire un certain nombre d'individus.
Le Bureau des légendes devrait avoir une saison 6 en France avec Mathieu Kassovitz, mais sans Éric Rochant qui se concentre sur un nouveau projet autour de l'espionnage. Nicolas Sarkozy, vous êtes un consommateur compulsif de séries, des Borgia jusqu'à Breaking Bad. Dans le Bureau des légendes,
famille Schitzel en ce moment.
Ah oui. The Killing, il y a une semaine aussi, c'était
oui,
ça.
Oui, puis l'orthodoxe, enfin bref.
Mais bon. Je vous ai vu concentrer... Dominique et Nicolas Sarkozy pendant le sujet. Il y a des similitudes que vous retrouvez, Monsieur le Président, sur votre quinquennat.
Mais bien, moi, j'ai vu les 5 saisons. Alors, j'ai adoré cette série. Et figurez-vous qu'après la 2e saison, j'ai été invité à la DGSE. Hein, j'étais plus président, pas le patron de l'époque. Et on a déjeuné avec un infiltré. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vie...
Comme celle qu'on nous raconte.
Exactement. Sa femme ignore absolument ce qu'il fait. Voilà. Absolument ce qu'il fait. C'est un monsieur qui n'a pas de gros muscles, mais qui a une vie à côté de sa vie. Voilà. Et on a déjeuné ensemble avec le patron de la DGSE. J'ai passé la journée là-bas. Et c'était très intéressant. C'est des gens tout à fait remarquables et qui ont apprécié la série. Mmh. Parce qu'au fond, elle met en valeur collectivement des gens tellement importants pour nous tous.
Et qui doivent rester anonymes.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
C'est la série qui s'exporte, française, oui. Qui s'exporte le mieux. Et elle est produite par un copain à nous, qui s'appelle Alex Berger. Et c'est chouette d'avoir un succès français aussi large. C'est très rare, et c'est la référence. Quand on parle aux Américains de série, ils nous parlent du Bureau.
Bureau des légendes.
Le Bureau.
Et ils vont la diffuser. Le Bureau. Ils vont la produire et la diffuser. Une reprise du Bureau des légendes aux États-Unis.
Exactement.
C'est l'heure du vu. Tout ce qu'il ne fallait.
Votre accent est impressionnant. Oui. Félicitations.
Vous voulez faire mieux, monsieur Nicolas Sarkozy ?
On sent la personne douée, non ? Je me suis trouvé une violente empathie avec vous, tout d'un coup.
Violente ? Mais je suis.
Une ressemblance ?
Oui.
Non, j'ai fait beaucoup de progrès.
C'est vrai ?
Je pourrais peut-être vous étonner.
Ah, on ne demande que ça. En attendant, c'est l'heure du vu, tout ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
L'homme aux mille vies.
L'homme aux mille vies.
L'homme aux mille vies.
L'homme aux mille vies.
Un homme avec mille vies.
Les mille vies de Bernard Tapie.
L'homme aux mille vies.
Il aura eu mille vies.
Un homme qui aura eu mille vies.
Et aujourd'hui, il a plu. Donc c'est Marseille qui pleure. Ça aussi, c'est un symbole. On n'oubliera jamais.
Le vieux port de Marseille, disparu sous les eaux, submergé tôt ce matin, après des pluies diluviennes. Entre hier et aujourd'hui, un déluge a frappé les Bouches-du-Rhône. L'équivalent de 2 mois de pluie s'est abattu sur la cité phocéenne, qui se réveille les pieds et les roues dans l'eau.
Et vous avez choisi une photo, celle du photographe sous-marin américain Stephen Kovacs. Pourquoi ?
Déjà quelqu'un. À votre avis ?
Oui, bah oui, voilà.
Il y en a, c'est le vélo, il y en a, c'est la pêche. Moi, c'est le jardinage, du jardinage extrême.
Il avait la colère bio, j'appelle ça, moi.
Bio ?
Oui, bio. Il était vrai, il était naturel.
J'ai commencé il y a 9 ans et c'est comme une drogue, je ne peux plus m'en passer maintenant.
C'est arrivé en Turquie, un homme sous, porté disparu, participe à sa propre recherche dans les bois.
L'histoire de la colonisation, c'est l'histoire d'un grand bouleversement qui a façonné le monde tel que nous le connaissons. Pendant plusieurs siècles, la France a en effet édifié au-delà des océans un empire colonial de 11 millions de kilomètres carrés. Un empire qui a été conquis par la force et dans le sang. Un empire où vivaient des dizaines de millions d'habitants, maintenus dans une situation de soumission, et qui pourtant n'ont jamais cessé de se battre pour se libérer du colonisateur.
Dans mon travail, quelqu'un disait « Colbert n'a pas fait que ça, c'est quand même un grand personnage, etc. » Colbert a quand même fait la grandeur de la France et j'entendais, moi, donc la grandeur de la France vaut qu'on tue, qu'on assassine, qu'on viole des millions de Noirs et que ça valait bien la peine.
Cette histoire, c'est la nôtre. Elle nous raconte aussi la France d'aujourd'hui, alors que de cette confrontation violente entre des peuples est née une irréversible communauté de destin.
Qu'on ait un pays qui doute, qu'on ait un pays, sans doute celui le plus pessimiste d'Europe quand on interroge les Français, il y a un sentiment chez les Français que ce pays finalement n'est plus la puissance qu'il était, qu'il faut lui redonner son lustre.
Un exotisme qui joue sur la grandeur française et surtout sur l'érotisme supposé des femmes de l'Empire. Des femmes à la beauté enivrante, forcément soumises. Un imaginaire de la femme-objet à disposition du colonisateur qui sera un puissant levier pour attirer de nouveaux candidats au départ, à destination de ce monde pour l'heure essentiellement militaire et masculin.
Quoi, quoi?
À qui vous répondez au message?
À qui je réponds au message?
Oui.
Bah, Mathieu Delormeau, j'ai répondu.
Absolument.
Parce qu'il m'a envoyé un message très gentil.
Ouais. Ah, donc faut vous sucer en fait.
Oh, non, non.
Dans le cadre d'une enquête de journalistes internationaux, le magazine Cash Investigation révèle que Dominique Strauss-Kahn chercherait à éviter l'impôt sur ses activités de conseil.
Et les journalistes de Cash Investigation ont calculé qu'il aurait, grâce à cette société, économisé environ 6 millions d'euros d'impôts sur les sociétés en 5 ans.
Le gouvernement, qui manque de fonctionnaires pour ses colonies, a préféré déléguer sa mission à 40 sociétés privées chargées d'administrer l'Oubangui, le Gabon et le Congo en échange du monopole commercial sur les richesses locales. Bois, ivoire, caoutchouc. Ce capitalisme colonial particulièrement vorace préfère s'enrichir au plus vite plutôt que de créer des écoles ou des dispensaires comme il s'y était engagé.
Et on nous explique qu'après la pandémie, il va falloir payer la dette. Or, en face de la dette, il y a ces chiffres absolument astronomiques de l'évasion fiscale. L'argent de la dette, il est là, il est dans les paradis fiscaux. Il faut absolument qu'on s'en empare, il faut s'attaquer, c'est une décision politique. Il faut que tous les États, de manière unanime, s'attaquent radicalement à ce sujet.
Valérie Pécresse a dit à Gérald Darmanin « Oui, mais vous, vous faites partie d'un parti politique de gauche. » Alors moi, j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille et j'ai dit « Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle !»
Aujourd'hui, les anciennes puissances coloniales sont sommées de regarder leur histoire en face. Même Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, le dit.
Black Lives Matter.
Ce sont les troupes coloniales qui constitueront l'essentiel des troupes françaises combattantes lors de la libération de la France. Des plages de Corse en 1943 à celles de Provence en 1944. Un apport considérable qui a fait basculer le rapport de force contre Vichy et qui exige de la part de De Gaulle une réponse politique aux attentes des peuples colonisés. On me lance à la tête des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. On me parle de progrès, de maladies guéries. Moi, je parle de millions d'hommes à qui l'on a savamment inculqué la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leur vie, à la vie. De toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles envoyées, on ne saurait tirer une seule valeur humaine.
Voilà pour le vu du jour. C'est la tradition. On demande à nos invités de revenir sur une image dans l'actualité récente qui les a fait réagir. Et Dominique, vous avez choisi de revenir sur un but, pas n'importe lequel, hein. Celui de Léo Messi en Ligue des Champions.
C'est moi, bon, je suis fan du PSG depuis très longtemps, avant même que Pierre en prenne la présidence. La période où Michel Denisot était le président, il y a eu des joueurs fantastiques. Entre les deux, on s'est un peu fait chier. Hein là, j'ai vu arriver O'Haro qui venait du Havre. On nous annonçait un buteur formidable. Il a été un buteur. Donc là, tout d'un coup, j'ai une action fantastique avec une remise d'Mbappé d'un autre monde et un but de ce génie de 35 ans qui est un génie du but. Qui, enfin, voilà, même il y a 2 ans, Mbappé à Paris, on rigolait, mais arrête-toi, ferme ta gueule. Voilà. Donc ce truc-là m'a rendu heureux. Ce moment-là m'a rendu heureux. Je l'ai revu des dizaines de fois. Voilà. C'est mon truc.
Vous aussi, ça vous a rendu heureux, ce but de Léo Messi ?
Oh, moi, je suis comme Dominique, j'aime le sport.
Et le PSG ?
PSG, bien sûr. Mais de sport de façon compulsive. Je peux même vous dire quelque chose, c'est que dimanche, il y avait Rennes-PSG à 13h. Et en même temps, il y avait Paris-Roubaix.
Ouais.
Ah oui.
J'avais mis Rennes-PSG sur ma tablette et Paris-Roubaix sur la télévision.
Vous avez plutôt profité de Paris-Roubaix, d'ailleurs.
Non, bah, c'est plus long, donc je me concentrais quand même. Mais c'était à la même heure, ouais, parce que c'était sur
parce
France 3 d'abord.
Paris a perdu, surtout.
Rennes a battu le PSG.
Ouais, 2-0. C'était, là, c'est la moins bonne image. Mais bon, on parlera d'autre chose.
Non, mais vous savez, le sport, c'est l'école de la vie. Et la vie, c'est plus souvent on perd qu'on gagne. Et tout le monde sait gagner. Très peu de gens savent perdre. Et l'élégance, c'est dans l'échec. Et le bonheur est dans l'épreuve surmontée. Jamais dans l'épreuve évitée. Et donc, souvent, moi, je vais voir des matchs de tennis.
En espérant qu'ils perdent.
Les petits. Non, non. Mais j'adore les matchs de fin de tableau. Je veux dire, pas forcément les matchs de gala. Ouais. Parce que je trouve, Pierre peut-être pense comme moi, mais je trouve qu'il se passe beaucoup de choses.
Bah oui.
Dans par exemple, les premiers tours à Roland-Garros, dans des matchs où on dit « il ne se passera rien ». Et tout d'un coup, on voit les joueurs différents. Et c'était très important pour moi, parce que quand j'étais dans une situation d'échec, je pensais que personne ne me regardait. Et qu'on me regardait quand j'étais dans une situation de succès. Dans le succès, on ne vous regarde pas vous, on regarde la lumière. Dans l'échec, on regarde. Et bien, dans les matchs, je trouve, tu vois, Rennes-PSG, on voit le caractère des joueurs. Parfois mieux que sur PSG-City.
Peut-être.
C'était il y a 15 ans. Vous étiez en boîte de nuit, Dominique. Une jeune femme vous propose de danser. Vous hésitez avant d'accepter de vous lancer dans un numéro époustouflant de breakdance. La suite en images.
Vous dansez ? Allez ! How you wanna top this feeling sitting atop the mirrors up in the spot
with women with their tops revealing losing my mind feeling like I'm losing my... C'est pas moi, c'est une doublure.
Moi, je peux plus le faire.
La sclérose en plaques est la première cause de handicap chez les 25-35 ans après les accidents de la route.
Avec ce spot de l'UNICEF, l'Union associative pour lutter contre la sclérose en plaques, diffusée en 2006, c'était l'une des premières fois où vous preniez la parole sur votre maladie. À l'époque, c'était un grand pas, déjà, ne plus se cacher, ne plus avoir honte. Aujourd'hui, avec ce livre, la démarche est différente. Vous voulez arrêter de faire bonne figure. Ce livre, Elle ne m'a jamais quitté, c'est d'abord et avant tout l'occasion d'un bon coup de gueule, trop longtemps retenu, Dominique.
C'est l'occasion aussi de dire à des gens en situation de handicap qu'il y a une chance et qu'on peut y arriver. Voilà. Donc j'avais envie de raconter mon histoire avec certaines personnes qui sont autour de la table.
Que vous citez un très grand nombre de fois.
Oui.
Suivez mon regard.
Et bah oui, mais il est important dans ma vie et je ne peux pas le cacher. Mais la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des gens qui m'ont regardé jamais comme un malade, qui ont toujours regardé en moi ce que j'avais d'intellectuellement positif, que je pouvais proposer, que je pouvais amener. Et j'aimerais enfin qu'on regarde les personnes en situation de handicap différemment. J'ai envie qu'on leur tende la main. On vit dans une ville qui s'appelle Paris. Mmh. On nous parle d'une ville inclusive. Il n'y a rien de politique dans ce que je dis. Je dis juste que, dans le bouquin, je prends l'exemple de Nicolas et d'Adopi. On aime, on n'aime pas. En tout cas, quand il a voulu, il l'a fait. Donc, si en politique, on se prend et on y va, tout d'un coup, ces 12 millions de personnes qui sont ou en situation de handicap ou qui sont proches du handicap ou dans ce qu'on appelle le handicap invisible, il faut les aider. Ils se désocialisent, ils restent chez eux. Les malades de la sclérose en plaques, il y a un truc terrible dans cette maladie, c'est la fatigue. On peut être atteint de fatigue chronique. C'est absolument chiant. Alors là, on vous dit, bah, vas-y, bouge ton cul. Qu'est-ce que tu fous? Bah, je fous qu'il faut que je me repose. Donc on te laisse tranquille, mais à force de te laisser tranquille, on ne t'appelle plus.
Et aller au cinéma à Paris, c'est comme grimper l'Himalaya. Prendre le métro, c'est impossible. Et ce n'est pas tellement parce que les stations de métro n'ont pas d'ascenseur. Non, c'est plus ubuesque que ça. C'est qu'on vous demande de ne pas prendre les ascenseurs en fauteuil roulant. Enfin, vous relevez des tas d'absurdités.
Il y a une absurdité sur certaines lignes où il y a des stations qui sont accessibles, mais on les ferme parce qu'on a peur que les handicapés vont descendre à la mauvaise station.
Là où il n'y a pas d'ascenseur.
Voilà. Donc ça veut dire qu'on est sur roulette, mais en plus on est con. C'est tout le temps la double peine. La SNCF a fait des progrès gigantesques, mais vraiment gigantesques, il faut le saluer. Mais si on veut changer de billet, il faut se prévenir 24 heures à l'avance. J'ai envie de pouvoir changer de billet quand je veux. Juste ça. Je ne demande pas plus, mais pas moins. Pareil, Aéroport de Paris a fait un boulot génial, vraiment génial. Mais parfois, vous attendez une chaise qui ne vient pas, c'est chiant. Et je le dis dans mon bouquin, une fois, moi j'ai toujours bossé, je n'ai pas arrêté de bosser. Je revenais de Berlin, ma chaise n'arrivait pas, on commençait à nettoyer l'avion, d'accord ? Et au bout de 45 minutes, je dis, c'est quand même chiant. Et là, une hôtesse me dit, quand on est dans votre état, on ne voyage pas. J'aurais pu la...
Bah oui, enfin, c'est exaspérant.
Voilà, c'est exaspérant d'entendre des phrases comme ça.
C'est insupportable.
Donc, ce bouquin est là. Bon, il y a des choses drôles dedans, il y a plein de choses que j'ai vécues, et aussi des propositions qui pourront peut-être marcher si on s'y intéresse.
Vous dites que vous en prenez pas aux responsables politiques, vous ne les blâmez pas plus que ça, dans la mesure où vous dites, tant qu'on est valide, on a du mal à comprendre. Vous-même, quand vous étiez valide, vous n'imaginiez pas tout ce qui deviendrait impossible, difficile.
Je raconte comment je me suis retrouvé en chaise roulante à cause d'un truc bête, je me suis fait une blessure de footballeur, c'est-à-dire je me suis fait les croisés du genou et le tibia en remettant mon bas de pyjama, d'accord ? En essayant de prévenir la réception de l'hôtel dans lequel j'étais, je me suis totalement fracassé. On m'a ramené en avion sanitaire puisque j'étais à Los Angeles. Et je ne vous souhaite pas de connaître la médecine américaine. Et de là, je me suis retrouvé dans cette situation où je ne pouvais pas bouger, où je ne pouvais rien faire parce que j'étais en fauteuil tout le temps. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que tu dises quelque chose.
Nicolas Sarkozy. Vous aviez promis lors de la primaire de 2016, d'ailleurs, que le handicap, d'ailleurs, serait le thème de l'un de vos premiers discours si vous étiez
non,
président.
Mais bon. Jacques Chirac s'était beaucoup engagé sur le handicap.
Bien sûr.
Je veux le dire. Et ça m'a d'ailleurs beaucoup inspiré parce que j'ai voulu me mettre dans sa lignée. Tu t'en souviens, on avait promis l'allocation adulte handicapé de l'augmenter de 25% sur le quinquennat, ce qu'on a fait malgré la crise. Et ce n'est pas là une petite fierté, je n'ai jamais eu une manifestation des associations qui ne sont pas faciles, et pour cause. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une personne handicapée ? C'est une personne qui n'a pas eu de chance. Une seconde, une nanoseconde, parce qu'il y a un accident, ou pas eu de chance dans son identité biologique. Ça peut tomber sur tout le monde. Bon. Absolument tout le monde. Et d'ailleurs, on peut nous-mêmes, en fin de vie, être profondément affaibli, diminué, handicapé. Et je pense vraiment que le regard qu'on porte sur le handicap, comme le regard qu'on porte sur le grand âge, c'est ça la ligne rouge de ce qu'est une société. Tout le monde dit, dans les jeunes. Ok, d'accord, les jeunes, la ménagère moins de 50 ans, les jeunes. Les jeunes vivent, mon vieux. Non, les vieux. Je ne dis pas ça parce que je deviens vieux. Je dis ça parce que l'humanité, elle doit porter sur la période la plus faible et la plus fragile de la vie d'un homme ou d'une femme. Quand il a un handicap, quand il a une maladie, ou quand il est dans l'extrême vieillesse. Voilà. Et on doit changer ses priorités. Et je pense que c'est un des problèmes de notre civilisation. Il y a tant de civilisations qui respectent la faiblesse, qui respectent la maladie, qui respectent le grand âge. Et nous, on respecte un peu seulement les critères de jeunesse, de bonne forme, de bonne santé. Moi, tant mieux pour ceux qui le sont. Mais la réalité, c'est que la maladie, elle est au coin de chacune de nos vies. Voilà. Et Dominique, il est en avant-garde. Parce qu'il a eu pas de bol d'avoir cette maladie. Mais je veux dire que la situation qu'elle est, c'est un truc qui peut nous arriver à tous. Un moment d'inattention ou une dulle qui vous tombe sur la tête.
Dominique, dans ce livre, vous nous expliquez que le travail a toujours été pour vous le meilleur des médicaments, à tel point que vous avez longtemps caché votre maladie à vos patrons de Canal+, à Alain de Greff et Pierre Lescure. Vous aviez peur qu'ils vous demandent de lever le pied. Il n'était pas question que cette maladie vous coupe les ailes. Vous meniez l'existence dont vous n'auriez jamais osé rêver enfant, être payé à écrire des conneries et les dire à la télé, aux côtés des nuls, qui après avoir fait les belles heures des nuls par ailleurs, y étaient invités, à l'occasion notamment de la sortie ciné de La Cité de la Peur.
Bonsoir Alain, Chantal et Dominique. Je suis Chacha, voici Bobé, et enfin là-bas c'est Fou de Joie. Nous sommes les trois animateurs de Les Nuls, le fan club. Quel plaisir de les voir dans Nuls par ailleurs.
Des images comme on aimerait en voir un plus souvent.
Si vous saviez.
C'est la première fois que je perds un ami en direct.
Nous avons vu votre film, nous avons beaucoup ri, hein. Surtout en voyant Dominique vomir à chaque fois qu'il est content. Fou de Joie, il est un peu comme ça lui aussi. Quand il est content, eh ben son corps réagit. À une différence près, lui ce n'est pas en vomissant, hein.
Je suis content.
Donc le personnage qui m'imite, c'est le producteur du bureau des légendes.
Exactement. Voilà. On est en 1994. Alain Chabat et Chantal Lobby sont au courant depuis peu, bien sûr. Et même si vous aviez pris déjà l'habitude de rire de votre maladie, eux, ça ne les a jamais fait rire.
Non, ils n'aimaient pas. Alain, surtout, il n'aime pas. Même encore aujourd'hui, il n'aime pas les blagues à propos de la maladie. Moi, pour moi, c'était une sorte d'exutoire. En rigolant et en plaisantant, j'arrive toujours à surmonter tout ça. On ne peut pas être dans la plainte constante, autant s'amuser. Je me plains à la maison, je fais chier à la maison.
Ce film, vous êtes trois. Il en manque un, c'est évidemment Bruno Carrette, qui est mort 5 ans avant, en décembre 89. La brutalité, la rapidité de son départ, sa jeunesse, il avait que 33 ans. Vous dites, Dominique, dans votre bouquin, je te vous vois pour l'occasion, vous dites dans votre bouquin qu'à n'en pas douter, cette maladie dormante à l'époque de la sclérose en plaques, ça l'a sans doute réveillé.
On parle souvent d'un stress immense qui déclencherait cette maladie, comme beaucoup de maladies auto-immunes. Moi, si je fais, en écrivant le bouquin, j'ai refait
le fil, quoi.
Le fil de cette maladie, et je pense que la mort de Bruno a été, comme vous le disiez, si subie, si terrible pour nous tous, que moi, je ne savais pas qu'on pouvait mourir à 33 ans. J'étais incapable de le comprendre. Incapable.
Et dans le bouquin, tu évoques aussi le moment où, des obsèques de Bruno et la réaction d'André Rousselet, parce qu'on nous parle souvent de l'esprit canal. Si l'esprit canal avait un sens, c'était bien le jour du premier deuil de cette chaîne et de toute cette entreprise.
D'une part, c'est toi, Pierre, qui prend l'antenne et qui annonce la mort de Bruno. Et là, le président Rousselet décide que, puisque Bruno est enterré dans le sud de la France, il va affréter un avion pour l'ensemble de la boîte pour qu'on assiste tous à l'enterrement.
Et il a demandé à la SNCF de rajouter deux wagons au train qui était prévu quelques heures avant les obsèques, et ce qui fait que plusieurs centaines de salariés ont pu descendre dans le midi. Il nous avait demandé avec De Greff, on peut tenir l'antenne 24 heures, on peut tenir l'antenne 24 heures avec combien de gens? Je m'étais renseigné, j'avais dit, président, on peut y aller avec 64 personnes, alors tous les autres y vont.
Et Pierre, on vous interroge souvent sur qu'est-ce que l'esprit canal?
Non, mais l'esprit, c'est d'avoir tous démarré sur une page blanche et d'avoir été libre. Merci Rousselet.
Et l'esprit canal, il est peut-être né aussi, justement, avec...
Sur des événements comme ça qui faisaient cohésion. Ça.
Mais c'était formidable, cette époque, pardon.
C'était formidable, oui. Non, pardon, je ne voulais pas vous couper.
Je pense, hein. Allez-y.
Dominique, vous dédiez votre livre à Isabelle, qui, elle non plus, ne vous a jamais quitté. C'est une histoire formidable, parce que, bon, voilà, vous avez 41 ans, elle 38, vous lui faites la cour, vous lui envoyez des fleurs au travail toutes les semaines, vous vous voyez pendant 6 mois, pendant que vous vous appelez 14 fois par jour. Enfin, c'est une histoire. Et puis, c'est un amour qui est soudé par la maladie, parce que vivre avec une personne malade, c'est partager les mêmes problème sur un plan pratique. Et puis vous avez deux filles, Mia et Zoé, et vous voulez rassurer, si oui, je puis dire, les personnes atteintes de sclérose en plaques, la maladie n'empêche pas d'avoir des enfants parce qu'elle ne se transmet pas. En revanche, le sens de l'humour, oui. Et vous êtes papa des deux reines de la vanne.
Oui, ça vanne beaucoup à la maison. Oui, oui.
Voilà,
tout dans le respect. Hein. dans le respect, non, mettez main sur la table, mais elles peuvent... Elles peuvent vanner. Non, au contraire. On a un petit jardin, on a deux chiens qui s'appellent Jean-Claude et Denise. Donc ma femme, un jour, dit allez, mon chéri, en parlant au chien, va faire pipi. Moi, je dis non, je préfère rester à table. Et donc ça fait rire les filles. Et là, elle parle à la chienne le jour d'après en disant ma chérie, allez, va faire pipi. Et là, ma fille dit je préfère rester avec papa.
Et voilà, elle ne m'a jamais quitté. Ce récit est formidable. C'est chez Robert Laffont, c'est signé Dominique Farrugia. Vous l'aviez déjà, Nicolas Sarkozy.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, et vous avez déjà Promenade également, Dominique Farrugia.
Oui.
Ah bon, mais donc je ne sers à rien.
Non, mais je suis un... lui, alors, au niveau bouquin, il est... Lui, il est... Voilà, il est olympique de... Voilà, il est fort.
Ah oui.
Moi, je suis un petit à côté, c'est un gros vendeur.
En termes de vente, vous voulez dire? Bon, ça peut changer. Non, merci beaucoup, Nicolas Sarkozy, d'être venu nous parler de ces promenades. Il faut admirer, c'est une citation de Jean d'Ormesson qui ouvre ce livre, qui pourrait être le catalogue de votre expo idéale.
Je pense à Jean d'Ormesson. Moi, je trouve qu'il nous manque. Parce que, vraiment, j'ai voulu mettre ça, tu vois, Dominique, c'est... Il faut admirer. On est une époque... Il faut détester, il faut salir, il faut avilir. Bon, et ben moi, merci de m'avoir invité, parce que je me sens bonne compagnie. Il faut admirer, et ben moi, voilà quelqu'un que j'admire.
Merci beaucoup.
Dans un instant, à notre table, avec vous, cher Dominique, une actrice qu'on admire aussi, une comédienne, réalisatrice qui n'hésite pas à mettre en scène son grain de folie poétique à travers des vidéos toujours drôles et décalées.
Mettre un corbeau sur un arbre perché, il tenait dans son petite gueule un American cheeseburger with bacon. All the leaves are brown,
and the sky is gray. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit.
Bonsoir, Zabou Bretman.
Ouais.
Bonsoir. Bienvenue à notre temps. On est fou, on lève les bras, on est hyper contents de vous accueillir.
Mais moi, je suis hyper contente d'être là, merci.
Aux côtés de Dominique, à l'occasion de cette pièce Dorothy que vous avez écrite, mise en scène et que vous incarnez au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est jusqu'au 24 octobre. Avant toute chose, il faut y aller. C'est formidable.
Avant toute chose, il faut y aller.
Avant toute chose, il faut y aller.
C'est le premier truc, évidemment.
Premier truc.
Et si vous dites on ne va pas y aller, remarquez, je peux manger, c'est
ça
sympa.
Démarre mal. Ça démarre mal.
Ça si démarre pas super bien, quoi.
On mange et on y va. On fait dans cet ordre-là et on mange. Chez nous a préparé Brandon Pernelet. J'annonce une fondue, mais c'est une croûte qui est arrivée. C'est ce qui s'appelle une croûte.
C'est une croûte, une tartine d'alpage. Mais c'est pas gênant, la fondue. Hein. Alors moi, j'utilise j'agrémente d'herbes de montagne. Alors, on peut trouver du cresson, de l'oxalis et des petites fleurs comme la bourrache. Et j'utilise comme fromage le Beaufort et le Comté. Et c'est ce que j'utilise dans ma recette pour faire ma fondue lors du concours Tokissime à Megève du 22 au 25 octobre prochain.
Ah ben c'est bientôt.
Eh oui.
Donc ça, c'est une sorte de répétition générale.
Tout à fait.
Merci, cher Brandon Pernelet, chef du restaurant sur les Prés à Megève.
Zabou, Dorothy. Oui. C'est donc Dorothy Parker, écrivaine, poétesse, scénariste, critique littéraire, dont la plume acerbe et féroce a fait les délices des années 20 et 30 à New York. Une sacrée personnalité à qui vous redonnez vie, toute seule sur scène pendant une heure et demie, dans un show éblouissant. Qu'est-ce qui vous a amené à cette femme drôle, délurée, mais aussi alcoolique et désespérée?
Ah, totalement. j'avais déjà joué ça en 82. Ouais, j'avais joué.
On va voir quelques images tout à l'heure. Ouais.
Ah ouais.
Mais là. Oui.
J'ai toujours pensé à cette liberté, c'est-à-dire que c'est une liberté les vrais libres, quoi. Elles s'en foutent complètement des étiquettes.
Elles emmerdent le monde.
Complètement, mais en même temps, elle s'en fout des étiquettes, elle aime pas les cases, et pourtant, elle fait des choses, pas pour les postures, mais elle fait des choses parce que sa morale est celle-ci, est la sienne, et elle est évidemment totalement désespérée parce que très lucide sur le monde, sur les rapports humains, trop, trop lucide à fleur de peau, et en même temps, elle est hyper cash, parfois trash, parfois très méchante, et c'est... Le parcours qu'elle a m'a complètement fascinée et surtout j'ai lu à partir en septembre 2020 ce qui était advenu de ses cendres.
Voilà, alors c'est ça, c'est le début du spectacle parce que le spectacle commence par la fin, la mort de Dorothy Parker, seule et oubliée en 67 à 73 ans. Oublié au point qu'après sa crémation, ses cendres n'ont été réclamées par personne. Vous racontez l'histoire invraisemblable de ses cendres restées dans l'armoire d'un avocat pendant plus de 15 ans avant que celui-ci n'en réalise une soirée pour décider de sa sépulture. Extrait.
Plus la nuit avance et plus l'alcool défile, plus les gens ont des idées quant aux cendres de Dorothy Parker. Ainsi, un pilote propose de survoler Manhattan et de balancer les cendres dans l'Hudson. On dit, bah, écoutez, mon vieux, les cendres, c'est volatile, il va y en avoir un petit peu sur les gens, c'est pas une bonne idée. Bon. Un deuxième dit, mais pourquoi on ne met pas tout simplement la petite boîte dans une vitrine de l'hôtel de l'Algonquin? Ah non, dit le directeur, ça me dégoûte un petit peu. Bah. Un troisième dit, mais un peu comme une installation, et si on incluait la boîte à l'intérieur d'un bar dans Manhattan? Oh non, écoutez, un petit peu de respect, lui répond-on. Moi, je pense que Dorothy Parker, elle aurait bien aimé cette idée-là. Mais bon, ça n'engage que moi.
Et pour son épitaphe, elle avait suggéré « Excuse my dust », pardon pour la poussière. Ça, c'est un truc formidable quand, évidemment, on décide de se faire incinérer. Alors, ce qu'on a vu là, c'est le prélude au spectacle, parce qu'après, vous alternez des extraits de ces papiers brillantissimes dans Vanity Fair ou The New Yorker, et puis des tranches de vie, des dîners, des rendez-vous dans des bars, dans des speakeasy, vous incarnez tous les personnages. C'était un défi que vous étiez lancé en écrivant ce spectacle?
Oh non, parce que je ne pense pas comme ça. Je ne pense jamais une chose comme un défi.
Mais au final, c'est un sacré show. Hein.
Oui, après, après, je me dis, merde, il y a vachement de boulot. Après, je me dis, ah non, en fait, il faut travailler plus que ça, quoi. Mais c'est plutôt un élan. Donc, c'est une envie. Et après, je me dis, merde, il faut vachement travailler, quoi.
En plus, vous avez tout rajouté. Parce qu'entre ces scènes, il y a un numéro de claquettes.
Oui.
Il y a des changements de costumes que vous faites toute seule derrière le paravent, mais en continuant de parler. des changements de décor et de lumière que vous opérez toute seule avec des boîtiers sur la scène. Donc,
oui, l'idée, c'était d'avoir un spectacle qui ne démarre pas. Enfin, qui ne démarre pas. C'est-à-dire qu'au début, la salle est allumée.
Moi, je suis rentré dans la salle un quart d'heure avant, je vous ai vu vous maquiller.
Oui, je me maquille, je parle aux gens. Ouais. Et ça commence, mais personne ne sait que ça a vraiment commencé. Et en fait, de voir tout... Ça n'empêche pas de voir un spectacle. Et plus ça va, plus ça se resserre. Et à la fin, on est vraiment sur une toute petite endroit de spectacle. Et c'est pas parce qu'on voit comment c'est fabriqué...
Que ça n'en est pas moins intense, ni
Ça enlève pas le... Ouais. Ni la comédie. Alors, au début, il y a des gens qui sont un petit peu... qui se demandent comment ça, ça se passe. Et puis, je parle aussi de la prohibition. Alors, bon, c'est drôle pour une femme qui était quand même très, très alcoolique. Mais je parle de la prohibition et du vote des femmes, qui fait partie finalement de la... Enfin, ça, c'est la même époque et pour les mêmes raisons, bizarrement. Et de la grippe espagnole.
Mais c'est dingue, parce qu'elle a vécu une pandémie.
Oui.
Et elle était assez géniale.
Oui.
Parce qu'elle disait que ça arrangeait bien les directeurs de théâtre,
ouais,
cette pandémie.
Ouais, elle a dit que, oui, elle a dit que ça donnait une fin honorable à pas mal de pièces de théâtre.
qui étaient des flops. Et ça les arrangeait bien de fermer les théâtres sous prétexte de grippe espagnole.
Elle est très, très méchante, hein, mais très, très drôle.
Très, très drôle. Et vous arrivez toute seule. Toute seule, avec un décor un peu plus fourni que ce qu'on a vu à l'image tout à l'heure, à reconstituer, par exemple, un dîner entier où elle lorgne sur l'épaule de son voisin, qui est
son voisin de droite, mais son voisin de droite parle à sa voisine de droite à lui.
Voilà.
Voilà. Et elle, elle a un mec à gauche qui ne lui parle que de ce qu'ils sont en train de manger. Ça peut être très bien, pardon, hein, j'ai un chef. Mais, en fait, elle dit, on a traversé toute la soupe ensemble et pas un mot de travers entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des dîners comme ça, où on aurait souhaité ne pas être à côté de cette personne-là. Mmh. Et elle est très... c'est très drôle, c'est rapide, elle est futée, quoi. Elle va vite, elle a de l'esprit, quoi. C'est la vanne, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça va vite.
Ouais, ça va vite. Votre rencontre, vous l'avez dit, avec Dorothy Parker date des années 80. Vous avez joué des morceaux de ses nouvelles et c'était vos premiers pas au théâtre. Alors, on a une archive de 87.
Non !
Et regardez.
Ah, dans une pièce de Dorothy Parker, jeune couple, avec comme partenaire Roger Miremont.
Oh, le genre de chapeau que j'aime, c'est le bleu que tu portes l'autre jour, celui-là, il était super.
Ah, vraiment ? Ah, ben c'est charmant. Ah, ça fait plaisir. Alors, la première chose que tu me dis après m'avoir arraché à ma famille, c'est que t'aimes pas mon chapeau, quoi.
Moi, j'ai toujours eu des problèmes de couple dans mes films jusqu'à maintenant. Les mecs me larguaient, je ne sais pas pourquoi. Peut-être une tête à me faire laisser tomber, je ne sais pas. En tout cas, je compte bien ce que ça change. Et maintenant, par contrat, je demanderai ce que les hommes ne me quittent plus. Voilà.
Contrat, je demande que les hommes ne me quittent plus. Donc voilà, donc, et Parker ne vous a pas quitté depuis cette époque.
Incroyable. Ouais, non, c'est marrant, je ne connaissais pas ce truc-là. Là, c'est bizarre de voir ça.
Bah, parfois, on trouve des trucs bizarres dans les archives.
Ouais.
C'est cohérent, en tout cas, parce qu'elle ne vous a jamais quitté depuis.
Oui, c'est marrant comment les choses résonnent. Et c'est amusant parce que quand on est plus jeune, on ne sait pas qu'on sait des choses, en fait.
On les
sait
fait
pas
sans
encore.
Savoir vraiment.
Oui.
Et là, maintenant, vous savez mieux pourquoi.
Peut-être. En tout cas, c'est une évidence. Ça doit faire écho avec ce qu'on est déjà profondément. Tout ne vient pas d'un coup. Mais c'est amusant comment tout à coup, je me dis, mais quelle liberté, parce que... Je veux dire, c'est vrai qu'elle est, elle combat la misogynie, mais elle n'aime pas du tout les féministes. Mmh. Elle n'est pas... C'est pas quelqu'un... C'est ça que j'aime aussi, c'est cette liberté-là.
Elle était vraiment anticonformiste à tout point de vue, y compris dans son féminisme. Quoi.
Oui, ou même... Oui, bah oui, complètement. Bah oui, elle supportait pas... Oui, oui, non. Ça l'aurait fait... Je pense qu'aujourd'hui, elle aurait été effondrée par une forme de, comment, de tyrannie, quoi, quasiment, de dictature. Parce que je comprends beaucoup de choses, mais j'aime cette liberté-là jusqu'au bout. Quoi. Elle est libre. Elle est libre. Elle va lutter contre l'homophobie, mais elle va dire que son mec est pédé comme un bouc. Ça n'a pas... C'est pas grave.
C'est tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un élan vers un projet, vers une idée, mais vous dites aussi, j'ai bien aimé, que quand vous vous retrouvez devant tout le boulot à faire pour cet élan, vous vous dites, je vais changer de métier.
Oui.
Vous pensez à quel métier, par exemple ?
Boulangère, tout le temps.
Ah oui ?
Oui, tout le temps boulangère. Parce que j'aime ça, hein, j'aime la boulangerie. J'aime ça, c'est un truc de...
Pétrir. Vous aimez pétrir ?
Pétrir, fabriquer un truc quand même, fabriquer quelque chose.
Oui, fabriquer.
Mais fabriquer un machin, mais la boulangerie, c'est bien parce que d'abord c'est sympa, ça sent bon, et puis on n'est quand même pas trop devant non plus. Mais là, tout à coup, je m'en veux de me mettre en danger de manière aussi violente.
En même temps, la scène, c'est dans votre ADN, entre votre papa scénariste et comédien et votre maman comédienne. C'est vous qui aviez demandé, vous vouliez être prof d'anglais, ça n'a pas duré ?
Non.
Finalement, l'ADN l'a emporté.
Ouais.
Mais c'est vous qui aviez demandé à votre père d'écrire un rôle pour vous dans la série Thierry Lafronde, quand vous étiez toute petite.
Oui, parce que j'avais vu des enfants, et je le voyais taper à la machine, je voyais bien qu'il faisait... Et puis je le voyais faire des trucs et qu'il écrivait pour des jeunes, il y avait des petits, des enfants. Ouais. Je me disais, mais moi, pourquoi j'ai pas un truc?
Bah oui.
J'avais 4 ans, j'ai dit, mais moi, je veux un
surtout
rôle.
Surtout que votre mère était dedans, en plus.
Oui, ma mère était dedans. donc, ça, je trouvais ça, ça m'énervait un tout petit peu, quoi. Oui, il y avait un petit... Et je pensais avoir la même robe que ma mère. Je me suis retrouvée avec une robe en toile de jute qui grattait, toute atroce. Non, c'était pas
et
terrible.
Depuis, vous avez préféré vous écrire vous-même vos spectacles.
Non, c'est pas vrai, d'ailleurs. Mais c'est pas complètement faux. Ça. Il y a un moment donné où quand vous n'avez... Je me dis, bah, tant pis, autant, je vais faire les trucs moi-même si ça ne marche pas.
Et ça donne Dorothy, entre autres, au théâtre de la Porte Saint-Martin, du mercredi au vendredi 20h, le samedi 20h30, le dimanche 16h. Et c'est éblouissant.
Ah oui.
Ça, vous le ferez rajouter sur l'affiche.
Quoi ?
Zabou Bretman.
Éblouissant.
C'est éblouissant.
Non, mais il y a tellement de trucs, maintenant, vous avez vu, dans les affiches. Ouais. C'est
il y a trop d'infos.
Il y a tellement d'infos, c'est merveilleux, c'est le truc le plus beau du monde, que je n'arrive plus
vous
à...
Vous hiérarchisez les qualificatifs.
Ou alors, on met que les trucs pas bons, non ?
Oui, mais
une
ça...
cata.
Ça marche pas.
Non. C'est de la merde.
Essayé, c'est de la merde et ça marche pas. Je le confirme. Ça marche pas.
Bon, on va passer aux actualités de Bertrand. Ça peut être éblouissant.
Ou pas, on verra bien.
On voit.
Bonsoir, ce soir, des clichés de la langue française remixés et des promesses électorales. Mais d'abord, hier soir, le monde entier était un ado qui n'a pas eu de bonnes notes à l'école, privé de WhatsApp, de Facebook et d'Instagram, ou plutôt, comme les appelle le ministre délégué chargé des PME, Alain Griset.
Instagram, Facebook.
Amstramgram et Facebook, il est fifou cet Alain Griset, eh oui, l'espace, Alain Griset, l'espace de 6 heures, la planète entière a donc vécu sans une partie des réseaux sociaux, c'était une sorte de vie ma vie de Patrick Cohen à l'échelle planétaire, car oui, Patrick envoie encore des fax et n'est pas présent sur les réseaux sociaux.
S'il y est présent.
Ah ouais ?
Non.
Ah pardon, non.
J'observe, mais je ne suis pas
présent. Ah oui, l'observateur de casque bleu des réseaux sociaux.
Une panne mondiale qui a donné lieu à des scènes très émouvantes. Dans le Gard, par exemple, des parents ont pu reparler avec leurs ados à table, une première depuis 8 ans, vous imaginez. Mais si ce bug a fait le bonheur de certains, il en a terrassé d'autres. Je me devais ce soir de les saluer. Pensez pour les influenceurs qui, pendant plus de 6 heures, ont été empêchés de faire de la pub pour des produits minceurs, des crèmes volumatrices pour les fesses et des blanchisseurs de dents avec le code promo Shana 2021. Pensez pour les tontons lourdingues du monde entier empêchés d'envoyer sur le WhatsApp famille leurs blagues chopées en 2008 sur rigolus.com. Pensez pour les complotistes empêchés d'informer leurs contacts que selon l'ami d'un collègue qui connaît le beau-frère de quelqu'un de très haut placé qui lui a dit « Le gouvernement, en étroite collaboration avec Bill Gates et les satanistes, veut contrôler la population en injectant des puces 5G ADSL Wi-Fi dans le corps. » Pensez pour vous. Et pensez pour ma mère qui, pendant 6 heures, n'a pas pu, comme chaque jour, me demander comment on s'organise cette année pour Noël. Je t'appelle après l'émission. Mais juste avant la panne, certains ont pu poster leur message in extremis et ça aurait été dommage de s'en priver. C'est le cas de cette influenceuse patriote. Oui, ça existe, influenceuse patriote. Deux mots qu'on n'associerait pas forcément à première vue. C'est comme dire véliplanchiste manchot, mais bon, ça existe. Et elle a partagé une vidéo dans laquelle elle explique pourquoi elle est patriote. C'est d'une logique implacable.
Pourquoi je suis identitaire ? Parce que je pense que tous les pays du monde devraient préserver leurs coutumes, leurs mœurs et leur peuple. Moi j'ai quand même mes grands-parents qui ont fui la dictature franquiste et quand ils ont découvert la France, ils ont découvert une France qui les a bien accueillis.
Elle propose donc de mettre fin à ce qu'elle trouve bien pour ses grands-parents. Soit jusqu'ici ça tient moyennement la route, mais voici la suite de son argumentaire.
Je trouve que le français de base a perdu son honneur, se laisse beaucoup maltraiter.
Eh oui, la langue française se laisse maltraiter, c'est donc tout naturellement que 5 secondes plus tard.
On se dégrade, l'institution nationale fait une propagande nauséabonde pour auto-flageoler le peuple français de ce qu'il a pu faire.
S'auto-flageoler, technique qui consisterait donc à se balancer des haricots blancs à la gueule en se lamentant « Oh, je suis nul, file-moi une bouteille de mon duel, vite !» tout compte fait, je me demande si une panne géante d'Internet tous les jours, ça ferait pas un petit peu de bien à tout le monde.
Ça sécherait ta chronique. Hein.
C'est pas faux. Alors je retire ce que je viens de dire. À part ça, je crois que Jean-Jacques Bourdin écoute trop RMC et pas assez énergie. Il était question des Pandora Papers.
La liste des fraudeurs est incroyable.
Et j'espère qu'on aura la liste des chefs 600 d'État, françaises ou 300
des chefs
français,
d'État, des chefs de gouvernement.
Hallucinant.
Je sais pas, moi, la chanteuse Shakiri.
Alors non, Jean-Jacques, Shakiri, c'est lui. C'est un footballeur, il joue à l'OL. Shakiri, c'est ça aussi. Mais la chanteuse, c'est Shakira. Whatever. Eh oui.
Oh, le
Shakiri à moitié dans...
Ton lit.
Tout à l'heure. Ouais, non. L'impro, très mauvaise idée. Hein.
Sur un fil, ouais.
Ouais, tout à l'heure.
J'ai vu la tête de
Babel. Oui, mais même moi, mais c'est ce truc où la phrase, on est allé trop loin, on l'a fini. Tout à l'heure, Anne Hidalgo posait la première pierre de l'Arena, porte de la chapelle en vue des JO de 2024. Il est des phrases qui marquent l'histoire politique. Celle-ci fera date.
On est dans un monde quand même, hein.
On est dans un monde quand même. Tous les jours, on se dit waouh, waouh, waouh. Un constat aussi vrai que fort. Et on referme ces actualités avec une immersion dans un univers merveilleux où tous les jours, on se dit waouh, waouh, waouh. C'est celui du magazine Vogue. Là-bas, les gens n'ont clairement pas la même vie que vous, que nous. Illustration avec cette pastille culinaire tournée à Paris. Dans la vraie vie, si vous vous baladez dans les rues parisiennes, il y a de fortes chances pour que vous ayez à slalomer entre des plots jaunes en plastoc et des crottes de chien tout en vous faisant klaxonner par des cyclistes et des automobilistes, tout ça sous la pluie. Mais quand on vit dans le monde merveilleux de Vogue, ça ne se passe pas comme ça.
C'est l'été à Paris. Il fait pas beau, mais la beauté est partout.
Ah, c'est à peine cliché. Émilie, Paris, à côté, c'est un sujet anti-Hidalgo. Et on fait quoi le dimanche chez Vogue ?
Je vais chez mon ami Louis Thomas, le peintre. Il va faire mon portrait, je vais lui cuisiner mes pâtes aux asperges.
En toute simplicité. Moi, le dimanche, personnellement, c'est plus vivement dimanche et jogging Kalenji, mais bon, chacun sa vie. Alors, généralement, quand on arrive chez un ami, deux options de phrases d'intro s'offrent à nous. Soit « désolé pour le retard » ou « désolé, faut que j'aille aux toilettes ». Mais chez Vogue, une fois qu'on a poussé la porte, on dit ça.
Ciao, ça va ?
Ouais,
top. Est-ce que tu peux me tenir les asperges, juste, je vais me changer.
Ben, pourquoi ? Viens directement dans la bonne tenue, gain de temps.
Tiens-moi l'asperge.
Et enfin, mais oui, vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous, quand on fait cuire des pâtes aux asperges, on est sur le qui-vive, un œil sur la télé.
Ça va, salut, quoi.
C'est ciao, il y a le ciao, ciao, je vais me changer. Nous, quand on fait cuire des pâtes, on a un œil sur la télé et l'oreille tendue sur le bruit de l'eau bouillante qui va déborder une fois de plus de cette casserole. Pas chez Vogue. Pendant la cuisson, ça se passe comme ça.
Louis et moi, on aime romantiser les choses. On apporte à l'ordinaire un côté merveilleux. Et je trouve que la vie devrait être comme ça.
Ah oui, elle pose pour les asperges.
Faut que je retourne à la cuisine pour regarder les asperges.
Je veux vivre dans ce monde.
Elle s'est échangée pour poser, j'essaie
pour
de
poser,
comprendre.
Elle s'est échangée pour poser pour le portrait pendant que les asperges cuisaient.
Ah, oh, le bouquet d'asperges qui est très naturellement posé sur les bras.
Tiens-les-moi, je vais me changer.
Il faut que j'enchaîne là-dessus.
Eh ben, démerde-toi.
Merci beaucoup, Bertrand Chamerois. Merci, cher Dominique.
Ah, mais merci à vous. Merci.
Elle ne m'a jamais quitté. C'est un formidable livre.
Merci.
Dans lequel Pierre Lescure est abondamment cité, mais c'est mais.
Ouais, parce qu'on a vécu ensemble pas mal de trucs.
On est presque 40 ans.
Presque 40 ans déjà.
Ouais, ça fait 37 ans.
Ah, oui, faites
ouais, on a rien vu passer. On a cligné des yeux et 40 ans se sont écoulés. Merci.
Oh non, mais arrêtez, écoutez, dites pas des trucs.
On va déprimer tout le monde.
Ah bah
cligne des yeux, hop, on a 40 ans de plus tous. Merci, chers Zabou.
Merci de m'avoir accueilli.
Bah, c'est un plaisir.
Saint-Martin.
Oui, mais voilà, j'aurais pu la faire cette connerie. Juste à la fin, tu sais, le truc, tu dis ah non,
ah, il
y a. Mercredi, vendredi 20h, samedi 20h30, dimanche 16h. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et si vous voulez bien, vous tournez vers Sébastien pour saluer comme il se doit nos invités. Si on avait un bouquet d'asperges,
ah,
on se changerait vite
on
fait.
On se changerait, oui.
Et on l'offrirait à nos invités. Zabou, vous avez le mot de la fin.
J'ai le mot de la fin ? Qu'est-ce que je dois dire ? À qui je dois parler ?
À Sébastien.
Seb ? Mais Seb, il ne me regarde pas.
Il tient la caméra, c'est les téléspectateurs qui vous regardent. Ça s'appelle la télévision.
C'est très bon. Alors, le mot de la fin, ça sera asperge.
Comprenne qui pourra. Ciao.